sur Radio Valois-Mulsien 93.7, page d'histoire. Dans la galerie des portraits des grands criminels, certains noms demeurent plus connus que d'autres. La Brinvillier, les Cartouches, Bonneau et autres Landru sont restés, avec l'aide intéressée de la littérature puis du cinéma, fameux. On les verra en action dans notre région, ce qui est moins attendu. Aujourd'hui, Pascal Lenoir fait revivre Cartouche et les 14 frères. Dans le chapitre 6, sorcières, brigands et criminels en pays d'Oise et en Picardie. Cartouche et les 14 frères. Dans la forêt de Rette, près du village de Gondreville, un des arbres les plus fameux était le chêne du roi qui, raconte-t-on, avait poussé sur un antique tumulus situé à proximité de la maison forestière, dite des 14 frères. Cet arbre remarquable, considéré comme millénaire, devint au fil du temps le repère de bandits des grands chemins. On le surnommait l'arbre au malandrin, ce qui ne laissait aucune ambiguïté sur l'endroit. Dans ce lieu peu fertile et désert, la nature leur avait, si l'on peut dire, favorisé les choses. Un chaos de grès, de toute forme, offrait une infinité de possibilités d'embuscades. Du haut d'un rocher, une vigie, à l'œil perçant, signalait l'approche des infortunés voyageurs. Les brigands trouvaient en ces rocs épars des cachettes pour se dissimuler avant de tomber à l'improviste sur leurs victimes. Une fois leur forfait accompli, d'autres grès, aux formes curieuses, leur servaient d'abri. En cas de nécessité, un autre de leurs repères se trouvait non loin de là, près du village de Vaumoise, et portait le nom de « la cave du diable ». Cette dénomination avait été attribuée jadis par les habitants à la suite de mystérieux et sombres récits, sans doute soigneusement entretenus par les comparses des malandrins, pour éviter que les parages ne soient fréquentés. Depuis toujours, ils s'y réfugiaient, faisant régner l'insécurité dans la contrée. En 1185, les brigands poussèrent l'audace jusqu'à détrousser la comtesse Éléonore de Valois qui se rendait de la Ferté-Milon à Crépy. Elle eut la vie sauve, mais fut dépouillée de tout ce qu'elle possédait. Choquée, la noble dame résolut de faire construire une tour fortifiée, haute de 5 étages, sur le lieu même de son agression, et d'y poster des soldats pour protéger les voyageurs. Mais, loin de renoncer, les brigands s'emparèrent de la tour et s'en servirent comme refuge, d'autant plus que de vastes souterrains couraient, dit-on, sous l'imposante construction. L'endroit fut vite considéré par les gens du pays comme un lieu maléfique, voué au sabbat, et c'est pourquoi ils le nommèrent la cave du diable. Thank you. 19e siècle, on redécouvrit l'entrée de cette cavité par un hasard providentiel. Une violente tempête renversa un vieil arbre plusieurs fois centenaire. Au milieu de ses racines et du vaste trou creusé par cet arrachement, on découvrit un orifice, l'entrée de la sinistre cave. On a raconté que plusieurs souterrains relieraient la cave du diable à la ferme du Plessis-aux-Bois, hameau de la commune de Vossienne, au château de Pierrefonds et à celui de Baie. Mais l'instabilité des galeries a fait renoncer les plus téméraires des chercheurs et ces affirmations demeurent à jamais invérifiables. Mais revenons à notre arbre au malandrin. Il fallut attendre bien longtemps avant que, sur ordre du cardinal de Richelieu, il fût abattu, afin de ne plus servir de refuge aux coupe-jarrets, crocheteurs et canailles de toutes espèces. Or, bientôt, du centre de la souche, un rejet poussa dont les glands donnèrent naissance à 13 autres petits chênes. Ce fut la raison pour laquelle on les appela les 14 frères. Un siècle plus tard, cette fratrie végétale était devenue de grands et beaux arbres adultes. Pour autant, leurs abords n'étaient pas mieux fréquentés qu'auparavant, ainsi qu'on va le voir. Transportons-nous maintenant à l'époque de la Régence. Cette période, qui correspond à la minorité de Louis XV, entre 1715 et 1723. Celui-ci, n'étant qu'un enfant de 5 ans, se trouvait dans l'impossibilité de succéder à son arrière-grand-père, Louis XIV. C'est pourquoi on institua un conseil de régence présidé par Philippe d'Orléans, premier prince de sang. Ce furent des années troublées à bien des égards et notamment sur le plan économique. La situation financière du royaume était catastrophique à la suite des énormes dépenses engagées par le roi Soleil pour ses dispendieuses guerres de conquête. La dette publique frisait les 3 millions de livres. Pour tenter de l'éponger, le régent s'en remit à un financier écossais, John Law, en France on dit Lass, dont le système, basé sur une spéculation sans limite, conduisit le pays au bord de la faillite. Les Écossais ont la réputation d'être économes, mais apparemment pas forcément de l'argent des autres. À proximité des 14 frères, un brigand et ses complices se sont de nouveau installés. L'endroit est calme. La maréchaussée ne fréquente que rarement les abords de cette région du Valois que traverse la route royale reliant Paris à Soissons. Le nom de ce bandit de grand chemin va passer à la postérité. Il s'agit de Louis-Dominique Garthausen, dit Cartouche, ou encore Bourguignon, Petit ou Lamar. Né à Paris, rue du Pont aux Choux, en 1693, il est le fils d'un ancien mercenaire allemand, originaire de Hambourg, devenu tonnelier, ou, selon certaines sources, marchand de vin, dans le quartier de la Courtille, après avoir servi comme valet chez le marquis de Beuzeville en Normandie. Son nom est tout simplement la transposition en français de son patronyme allemand, peu à peu déformé par l'usage. Garthaus, Gartouche et enfin Cartouche. Bien que d'origine très modeste, le jeune Louis-Dominique reçoit une éducation de tout premier choix. Il commence ses études au collège Louis-le-Grand, avant d'en être chassé pour indélicatesse. Sur les bancs de ce déjà prestigieux établissement, il a pour condisciple un jeune homme qui fera également parler de lui, François-Marie Arouet, dit Voltaire, issu, lui, de la bonne bourgeoisie parisienne. Selon la légende, la vie de Cartouche n'en manque pas. Il aurait été enlevé par des bohémiens qui l'auraient initié au vol. Cette mésaventure de jeunesse expliquerait ses penchants malhonnêtes et lui tiendrait lieu, pour certains, de circonstances atténuantes. Pourtant, ce supposé destin malveillant ne peut totalement expliquer la future et riche carrière du bandit. Bien vite, son goût pour les larcins sera renforcé par une imagination sans limite et un sens de l'efficacité qui en feront le chef d'une bande redoutable et redoutée. Bourguignon servit quelque temps dans l'armée du roi, mais préféra assez vite mener une guerre plus personnelle et, surtout, plus lucrative. Sous son pseudonyme de Cartouche, il prit la tête d'une terrible bande qui commettait des vols et des assassinats dans la capitale. Elle était composée d'anciens soldats ayant reçu leur congé ou s'étant congédiés eux-mêmes. Redevenus civils, ils exerçaient divers métiers honorables, cabaretier, brocanteur, maître d'escrime, acteur de théâtre, ou moins honorable, souteneur, receleur, indicateur. Ils formaient l'ossature de la bande et surtout l'élément actif. Autour d'eux gravitaient des auxiliaires exerçant a priori un métier respectable, serrurier, arquebusier, fondeur d'or et d'argent, profession très utile à tout point de vue. Dans cette armée originale, on trouvait même un service de santé assuré par plusieurs chirurgiens disposant d'un local sûr pour soigner les blessés. Cartouche possédait un sens inné de l'organisation. On a estimé que le nombre de cartouchiens, comme on les appelait, s'élevait à 2000 individus. Le procès révéla le nom de 366 hommes et femmes faisant partie de la bande. Évidemment, ceux qui ne furent pas arrêtés ne revendiquèrent pas leur appartenance à cette association de malfaiteurs. On affirme en particulier que plus de 200 gardes françaises, soldats d'élite, mais à la moralité douteuse, qui constituaient la garnison de Paris, quittèrent précipitamment l'armée au moment de l'arrestation de Louis-Dominique Cartouche. Les minutes du procès nous ont révélé les surnoms et sobriquets que portaient ces soldats de l'armée cartouchienne. Limousin, provincial, le Suisse et la Suissesse, le gros Picard, bourbonnais, lyonnais, petit breton, flamand, tête de mouton, craqueur, patapon, marmotte, petit Pierrot, Pierrot le bossu, va de bon cœur, le peintre, la plume, belle humeur, la dansette, belle à voir, la porte Saint-Jacques, le capucin, Gatelard, le matineux, éveille-chien, bras de fer, gueule noire, jambes d'échalas, la douceur, etc. Les femmes y étaient également bien représentées. La borne, la belle laitière, la grande gazette, la petite Mion, la brunette, Tapedru, la grosse Poulière, Fleur et Épine, Margot la religieuse, Jeanneton, Vénus, la platine, la vache à panier, etc. Cartouche réunissait les principaux lieutenants dans les carrières de Montmartre. La bande obéissait à un cloisonnement strict, si bien que la plupart des cartouchiens ne surent jamais qui était leur chef. Mais même ceux qui le connaissaient ne devaient en aucun cas l'identifier en public ni prononcer son nom. Il le désignait, a-t-on dit, sous le nom de l'enfant, probablement par allusion à sa petite taille. On comprend qu'avec une telle organisation, l'armée cartouchienne ravagea Paris et ses faubourgs sans beaucoup d'opposition de la part des archers du roi et des polices privées des nobles et des bourgeois. Il fallait, autant se faire que peu, éviter de se déplacer dans les rues de la cité après la tombée du jour. Mais la bande ne dédaignait pas opérer aussi dans les campagnes environnantes de la capitale. Probablement était-ce là une astucieuse manière de se faire oublier de la police parisienne. C'est ainsi que, pour un temps, Cartouche établit son quartier général dans les parages de la cave au diable dont nous venons de parler. De là, ces hommes surveillaient la route de Paris dans l'espoir d'un bon coup. Toujours bien renseigné, Cartouche apprit le passage imminent de la comtesse Lallemand, épouse de l'intendant de la généralité de Soissons, qui se rendait dans cette ville. Elle devait assister à des réjouissances publiques données par son mari à l'occasion d'une des nombreuses fêtes organisées sous la Régence. Bientôt, ayant dépassé Gondreville, le carrosse apparut à la lisière de la forêt, soulevant un nuage de poussière. Il s'y enfonça et passa devant les 14 frères. L'un des membres de cette fratrie arbustive portait sur une de ses hautes branches un complice qui signala le passage de l'équipage par un signe convenu. Alors que la voiture se dirigeait vers la cave au diable, quelques fripouilles se lancèrent à la tête des chevaux pour les arrêter, pendant que d'autres, armés jusqu'aux dents, tenaient en respect les gens de la comtesse qui, à vrai dire, n'en menaient pas large. L'équipage stoppé et neutralisé, Cartouche marcha avec nonchalance vers la porte de la voiture, qu'il ouvrit d'un geste désinvolte en priant aimablement Madame la comtesse, de bien vouloir descendre et lui remettre l'argent qu'elle détenait et les bijoux qu'elle portait. Pendant ce temps, les voleurs déjà présents et les autres, précipitamment sortis des fourrés, enlevèrent les bagages et les firent prestement disparaître. L'opération terminée, le galant bandit prit le temps de rassurer la noble dame que toutes ses émotions avaient portées au bord de l'évanouissement. Il l'aida à remonter dans son véhicule et ordonna au postillon de reprendre sa route. Du moins, c'est ainsi que l'imagination populaire a présenté cette affaire. Qu'y a-t-il de mal à voler parfois les riches qui volent continuellement les pauvres? Pendant une dizaine d'années, Cartouche défraya la chronique. La peur qu'inspirait le banditisme organisé autour de Paris n'empêcha pas la presse de l'époque de le traiter avec une indulgence toute spéciale. Son audace, son courage, son ingéniosité et ses bonnes manières devinrent légendaires, bien qu'on n'ait connu les détails de sa courte carrière criminelle qu'après son arrestation en 1721. Il s'avéra que Cartouche avait bénéficié de nombreuses complicités et pas seulement auprès de la fripouille, mais aussi dans l'armée, la police et la magistrature. Dénoncé par un de ses anciens lieutenants ou par une femme, selon d'autres sources, les hommes de la police le surprirent en plein sommeil le 15 octobre 1721. Dans sa cellule, Cartouche reçut de nombreuses visites. Les élégantes de la cour vinrent frémir en contemplant le fameux bandit. Le régent en personne lui apporta des friandises. Comme l'exigeait la procédure à cette époque d'Ancien Régime, Cartouche subit la question qu'il supporta courageusement, affirmant toujours qu'il était innocent et qu'il n'avait pas de complice. Sur la place de Grève, qui servait ordinairement de lieu d'exécution, mais aussi d'esplanade pour les fêtes et le feu de la Saint-Jean, Cartouche fut roué vif le 28 novembre 1721. Ce supplice avait attiré une foule immense du petit peuple de Paris jusqu'à la plus haute noblesse. Le nombre des carrosses était tel qu'il y eut des embarras de circulation. Les fenêtres donnant sur la place étaient louées 2 jours à l'avance à prix d'or. On était venu d'Angleterre pour assister à cet événement. Cartouche gravit calmement les marches de l'abbaye de Mont-à-Regret, comme il nommait plaisamment l'échafaud, où l'attendait le bourreau Charles Sanson, fils. Il regarda autour de lui, cherchant des visages amis. Jusqu'au dernier moment, il pensait que ses compagnons tenteraient de le délivrer. Mais il se rendit vite compte, en regardant la multitude, à quel point son espérance d'être délivré par la force était insensé. Il avisa qu'il n'y avait qu'une seule roue sur l'échafaud. Dans son journal, l'avocat Barbier, témoin oculaire de l'événement, raconte comment l'illustre bandit dénonça par dépit ses complices, lui qui n'avait lâché aucun nom sous la torture, ce qui, par ailleurs, repoussa son supplice au lendemain. Devant son courage, Cartouche eut le privilège d'embrasser une dernière fois sa maîtresse, une fort jolie fille, écrit Barbier. Par la suite, nombre d'entre eux, y compris certains membres de sa famille, connurent le même sort. Certains plus chanceux furent seulement condamnés aux galères. Son cadavre fut exposé dans une baraque foraine. Contre paiement d'un droit d'entrée, les curieux défilèrent pour voir la dépouille du plus fameux bandit de l'époque. Son masque mortuaire est conservé au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye. Très célèbre de son vivant, deux pièces de théâtre, dont l'une portait le titre « Cartouche ou les voleurs », elle sera interdite un temps par le régent, mettaient en scène ses exploits. Cartouche le fut plus encore après sa disparition. Presque immédiatement, il devint un héros chanté dans les complaintes populaires. En 1722, un an à peine après sa mort, un livre parut, « Histoire de la vie et du procès du fameux Louis-Dominique Cartouche et de plusieurs de ses complices ». Ce livre fut édité à Bruxelles, les autorités françaises n'autorisant pas que l'on fasse la publicité d'un tel criminel. Ce sera le début d'une popularité immense. Au début du XIXe siècle, un livre de colportage de la Bibliothèque Bleue, « Les amours et la vie de Cartouche », glorifiera la figure du voleur parisien dans les campagnes françaises auprès d'un public populaire avide d'histoires sensationnelles. À la veillée, on lira les aventures romancées du bandit bourreau des cœurs. Comme son alter ego Mandrin, le personnage de Cartouche sera aussi le héros de poèmes, comédies, vaudevilles et opérettes. L'imagerie d'Épinal reproduira les principaux épisodes de sa courte mais intense existence. La fascination du peuple, comme des classes aisées, pour l'indomptable héros qui défie la société et ses institutions, ne se démentira pas au fil du temps. D'innombrables histoires, plus légendaires que véridiques, couraient déjà sur Cartouche de son vivant. Elles se multiplieront après sa mort. La plus célèbre fera de lui un bandit d'honneur, volant les riches pour venger les pauvres et redistribuant une partie de ses rapines. On insistera sur ses conquêtes féminines, de la duchesse à la fille du ruisseau. On versera des larmes dans les chaumières comme dans les châteaux, sur le destin de ce héros, martyr du pouvoir royal et mort à 28 ans. Louis-Dominique Bourguignon sera encore assez célèbre 3 siècles plus tard pour inspirer les cinéastes. Le personnage de Cartouche fera l'objet de pas moins de 7 films et téléfilms. Le plus célèbre est celui de Philippe de Broca, 1961, avec un scénario et des dialogues de Daniel Boulanger, né à Compiègne et qui habita longtemps Senlis. Ce film, dont certaines scènes furent tournées à Senlis, montre le célèbre bandit sous les traits avantageux de Jean-Paul Belmondo, personnage charismatique et flamboyant, amoureux de la magnifique Vénus, Claudia Cardinal. Histoire d'un vieux chêne et de ses 14 enfants, les 14 frères du désert, par le vicomte Éricard de Thury, Paris 1839. L'arbre des malandrins. Le vieux chêne de la Tombelle ou du tumulus de la Tour du Grain, père des 14 frères, et sur la souche duquel cette nombreuse lignée s'est élevé, était connu des anciens gardes de la forêt sous le nom de l'arbre du roi, parce qu'avant les guerres des 14 et 15e siècles, elle servait pour les audiences des gruyers ou officiers de justice forestière. D'autres l'appelaient tantôt le chêne de la belle duchesse et tantôt le chêne de François Ier, parce que François Ier y avait souvent établi ses rendez-vous de chasse avec la duchesse d'Étampes. Mais les vieillards le désignaient plus souvent sous le nom de l'arbre des malandrins ou du chêne des truands, parce qu'il avait été longtemps leur rendez-vous général à certaines époques de l'année. Ces jours-là, en effet, le banc et l'arrière-banc de la grande truanderie et des compagnies de maraudeurs mal avisés ou mendiants de la contrée affluaient de toutes parts aux chaînes des malandrins. Aussi, les vieillards disaient-ils, et la tradition redira longtemps d'après eux, les histoires infernales, les aventures scandaleuses, les ignobles conciliabules, enfin les sabbats et les charivaris de bohémiens qui y avaient lieu et qui étaient tellement redoutés qu'aucun habitant, aucun voyageur ne se serait exposé à passer seul près de l'arbre des gueux ou des truands pendant la tenue de leurs états, sous peine de payer sa malvenue au prix de sa bourse et même quelquefois de la vie. Avant de se séparer, dit encore la chronique, ces malavisés avaient pour habitude d'enfouir au pied de cet arbre tous les reliefs, tous les menus et débris de leurs orgies et d'appendre à ses branches les lambeaux, les haillons et guenilles qu'ils quittaient ou qui n'avaient pas été consumés dans l'auto-da-fé qu'ils allumaient, auquel parfois ils condamnaient leurs ennemis et souvent ceux des leurs, qui étaient reconnus coupables de trahison et d'infidélité envers la confrérie des malandrins de la grande truanderie. Un des plus anciens gardes de la forêt nous a assuré qu'il avait bien souvent entendu dire à son père, mort nonagénaire, que Louis XV, un jour, entraîné à la poursuite d'un cerf dans une de ses chasses à Compiègne, était venu avec sa suite visiter les 14 frères. Que son père y avait vu Louis XV avec une partie des seigneurs et des dames de la cour. Que le roi, lui ayant demandé ce qu'on disait dans le pays, son père lui avait raconté ce que les traditions rapportaient, et que Louis XV, satisfait et enchanté de son récit, lui avait donné de sa propre main 5 louis d'or. Arrêt de la Cour de Parlement portant condamnation de mort contre Louis-Dominique Cartouche, Jean-Baptiste Madeleine, dit Beaulieu, Jacques Maire, dit Limousin, Jean-Pierre Balagny, dit Capucin, Jean Blanchard, dit Gaillard ou Champagne, ou le chanteur de chansons, François-Louis Grutus, du Châtelet, Jean-Baptiste Messier et le nommé Le Camus. La dite cour déclare la contumace bien instruite contre lesdits Camus, Antoine-François et Blaise et adjugeant le profit d'Issel pour réparation des cas mentionnés au procès, condamne lesdits Camus, Louis-Dominique Cartouche, dit Lamarre, ou Petit, ou Bourguignon, Jacques Maire, dit Limousin, Jean-Pierre Balagny, dit Capucin, Jean-Pierre-François Grutus, du Châtelet, dit Lorrain, et Charles Blanchard, dit Gaillard, avoir les jambes, cuisses, bras et reins rompus vifs sur un échafaud qui, pour cet effet, sera dressé en place de grève de cette ville de Paris. Ce fait, leur corps, mis chacun sur une roue, la face tournée vers le ciel, pour y finir leur jour, Jean-Baptiste Madeleine, dit Beaulieu, et Jean-Baptiste Messier, dit Flamand, être pendus et étranglés jusqu'à mort s'en suive à des potences qui, pour cet effet, seront plantés en ladite place de grève et leur corps mort y demeurer 24 heures, puis portés au gibet de Paris, et seront préalablement lesdits Louis-Dominique Cartouche, dit Lamarre, ou Petit, ou Bourguignon, Jean Maire, dit Limousin, Jean-Pierre Balagny, dit Le Capucin, Pierre-François Grutus du Châtelet, dit Lorrain, Charles Blanchard, dit Gaillard, Jean-Baptiste Madeleine, dit Beaulieu, et Jean-Baptiste Messier, dit Flamand, appliqués à la question ordinaire et extraordinaire. Thank you. Début de Histoire de la vie et du procès du fameux Louis-Dominique Cartouche et de plusieurs de ses complices. Bruxelles, 1722. Le public a reçu, avec une avidité incroyable, tout ce qui regardait Cartouche. Et le nom seul de ce fameux scélérat, mis à la tête d'un livre ou d'une comédie, a suffi pour faire débiter l'un et pour attirer à l'autre un succès prodigieux. Au reste, ce n'est pas seulement en France qu'on a témoigné de la curiosité sur cet article-là. La Hollande, l'Angleterre et l'Allemagne ont eu le même empressement qu'avaient les Parisiens et les Français. Et quand une gazette n'aurait dit autre chose de Cartouche, sinon qu'il continuait ses vols, qu'on le cherchait inutilement partout, etc., on lui savait bon gré de l'avoir dit et l'on aimait mieux une nouvelle aussi vague que rien du tout. C'est ce qui me fait espérer qu'on verra avec plaisir l'histoire de ce voleur, d'autant plus qu'elle a été écrite sur des mémoires particuliers, sur les pièces de son procès et sur les récits que tout Paris a entendus de sa propre bouche et dont ce malfaiteur réjouissait ceux qui allaient le voir. Je pense même qu'elle peut être de quelque utilité et que la manière dont on y verra que cet homme est devenu insensiblement un monstre odieux pour servir à nous convaincre que nous ne devons regarder aucune faute comme petite, puisque les plus petites peuvent nous conduire enfin dans un précipice affreux. Et que ce sont elles effectivement qui y ont conduit par degrés ce malheureux voleur. Mais voici assez de réflexions sérieuses. Je les quitte et je compte que mes lecteurs me pardonneront, d'autant plus volontiers, de les avoir mises, qu'ils savent bien qu'on n'en pouvait moins placer dans l'introduction d'un semblable ouvrage et que je promets de les laisser faire désormais à ceux qui liront ceci. Complainte de Cartouche. Enfin, Cartouche est pris avec sa maîtresse. On dit qu'il s'est enfui par un tour de souplesse. Un chien l'a fait repincer dès le matin. On l'a mise au cachot avec un fort bon drille. Sans couteau ni ciseaux, ni marteau ni faucille. Leurs mains ont fait un trou chez le voisin. Il dit à la question « Je ne suis pas Cartouche, je suis Jean Bourguignon, je ne crains pas vos douches, je suis Lorrain de Nation, je suis Lorrain. » On le mena jeudi à la place de Grève. Tout était si rempli que tout le monde y crève. Puis on l'a fait sortir de sa prison. En montant l'escalier de l'hôtel de ville, il dit au gonfalier « Ami, je suis débile, donnez-moi un verre de vin, mon cher ami. » On dit qu'il accusa grand nombre de personnes des pays étrangers, des femmes et des hommes. Il fut exécuté le vendredi. On déclamait aussi ces vers. Dans Paris, ce beau lieu, toujours si fréquenté, personne ne pouvait marcher en sûreté. Cartouche et ses suppôts de richesses avides remplissaient la cité de vols et d'homicides. Les archers les plus fiers et les plus valeureux, abattus, consternés, n'osaient marcher sur eux. C'était Page d'histoire, lue dans l'ouvrage de Pascal Lenoir, Sorcières, brigands et criminels, en pays d'Oise et en Picardie, Mémoire des pays d'Oise, achevé d'imprimer en avril 2018, deuxième tirage, sur les presses d'ICN 64 300 Orthez, accompagné par le concerto trompette de Joseph Hind, 1732-1809, sur Radio Valois-Mulsien 93.7.